Chapitre 8. Conclusion du premier jour. Si nous restons un instant en dehors de la porte de Fabius, nous voyons Agnès s'éloigner en continuant sa joyeuse conversation avec Cécilia. La noble jeune fille propose à l'aveugle de la faire reconduire par un de ses serviteurs, car le jour baisse à l'horizon. Cécilia sourit en rappelant à Agnès que, pour les aveugles comme elle, le jour lui-même est une nuit éternelle et qu'elle connaît aussi bien les catacombes, au milieu du labyrinthe desquelles elle peut servir de guide, que les rues de Rome qu'elle parcourt en sûreté à toutes les heures. Si ensuite nous franchissons de nouveau le seuil de la maison de Fabius, nous trouvons tout en révolution. Les esclaves, armés de torches et de lampes, parcourent les endroits les plus obscurs de la maison, cherchant un objet impossible à trouver. Euphrosyne est à la tête des esclaves, insistant pour que les recherches se poursuivent avec activité. Mais à la fin de ces investigations stériles, on renonce à découvrir le précieux objet. Le lecteur a sans doute deviné le mot de cette énigme. Cyra s'y est présenté à Euphrosyne afin de faire panser son bras et le voile brodé qui l'enveloppait a disparu. Elle ne peut savoir ce que cette précieuse écharpe est devenue et dit seulement qu'elle l'a ôtée puis remise, moins solidement sans doute que la bille Euphrosyne. Cyra explique la raison qui lui a fait quitter en moment la riche écharpe, car elle ne voudrait pour rien au monde souiller ses lèvres d'un mensonge. La bonne nourrice fut très peinée de cette perte, qui était grande pour une pauvre esclave qui, sans doute, destinait cet objet de prix au rachat de sa liberté. Cyra se montrait très affligée, mais par des motifs que la bonne Euphrosyne n'aurait pu comprendre. Celle-ci avait fait interroger tous les esclaves de la maison, en avait fouillé plusieurs, à la grande confusion de Cyra, puis ordonna enfin une recherche générale dans tous les endroits de la maison où Cyra pouvait avoir été. Qui aurait jamais eu la pensée de soupçonner un des hôtes de Fabius d'avoir dérobé l'écharpe d'une esclave? La vieille femme vint à conclure que l'écharpe s'était envolée sous un pouvoir magique et elle supposa que l'esclave noire Afra, qui connaissait les filtres et les charmes, avait ensorcelé le voile brodé de Cyra qu'elle détestait. Afra passait, aux yeux d'Euphrosyne, pour une vraie canidie. Elle était obligée de la laisser sortir seule, pendant la nuit, sous prétexte qu'elle allait, à la clarté de la lune, cueillir les herbes qui entraient dans ses cosmétiques. Arrachées à une autre heure, elles n'eussent point produit leur merveilleux effet. Euphrosyne pensait qu'Afra allait chercher des poisons subtils, mais ne soupçonnait pas qu'elle se rendait aux orgies odieuses du fétichisme de sa race où l'on venait consulter son art magique. Cyra seule pensa que son écharpe avait eu un autre sort. Elle se rappelait le passage de Fulvius à travers la cour au moment où elle s'était cachée derrière un pilier. Elle l'avait entendu s'arrêter à la place qu'elle venait de quitter et ses pas précipités en se dirigeant vers la porte d'entrée résonnait encore dans l'oreille de l'esclave. Elle était donc convaincue que son écharpe avait été ramassée par Fulvius, car il était impossible que la vue de cet objet l'eût trouvée impassible. Après avoir réfléchi longuement aux conséquences de cette aventure, qui pour elle réveillait tout un monde de souvenirs pénibles, elle se remit, comme à l'ordinaire, entre les mains de Dieu et goûta le repos qui est doux et calme pour les âmes pures. Après le départ d'Agnès, Fabiola se retira dans son appartement. Deux de ses esclaves et Euphrosyne vinrent lui rendre leurs services accoutumés, puis elle les renvoya d'un ton plus doux qu'à l'ordinaire. Aussitôt qu'elle fut ressortie, elle alla s'étendre sur la couche où nous l'avons trouvée en commençant ce récit, quand tout à coup elle découvrit près d'elle le stylet avec lequel elle avait blessé Cyra. Se levant alors, elle le saisit avec horreur, et, ouvrant un coffre, elle l'y jeta. Depuis ce jour, jamais elle n'employa cette arme cruelle. Elle prit alors le livre qui, quelques heures auparavant, l'avait distraite. Mais, le cours de ses pensées étant changé, elle le trouva froid et insipide. Elle le mit de côté et se laissa alors aller à ses réflexions sur les événements de la journée. La première de ses pensées fut consacrée à Agnès. Quel enfant incomparable! Comme elle s'oubliait elle-même! Qu'elle était pure, simple, sensible et en même temps sage! Fabiola voulait être plus que jamais sa protectrice, sa sœur aînée. Elle avait remarqué, aussi bien que son père, que les regards de Fulvus se fixaient souvent sur sa jeune parente, que ses regards, sans être hardis et téméraires, étaient ardents et qu'ils trahissaient quelques rêves, quelques projets dont Agnès pouvait devenir la victime. Fabiola résolut de l'en garantir et arriva à la conclusion opposée à celle que Fabius venait de tirer. Elle décida dans son esprit que Fulvus ne serait plus invité chez son père pour prévenir ses rencontres avec Agnès et se blâma elle-même d'avoir, pour un motif personnel, introduit cette jeune fille au milieu de l'étrange compagnie qui se réunissait autour de la table de Fabius. Chose étrange, à ce moment même, Fulvus, étendu sur sa couche, décidait que, s'il était possible, il ne franchirait plus à l'avenir le seuil de Fabius et trouverait moyen d'éluder les invitations qui lui viendraient de ce côté. Fabiola avait deviné Fulvus. Avec cet œil pénétrant dont elle était douée, elle avait saisi l'affectation de ses manières et surpris ce qu'il y avait de faux et de côteleux dans son regard. Dans son esprit, une comparaison s'était faite, un contraste s'était élevé entre ce jeune homme et Sébastien. « Quel noble caractère que ce Sébastien !» pensait-elle. « Comme il est différent des autres jeunes gens qui viennent ici !» Un mot léger n'effleure jamais ses lèvres, un regard hardi ne s'est jamais échappé de ses yeux brillants et doux. Qu'il est sobre dans ses repas, qu'il est modeste, ce vrai héros, dont la valeur et les belles actions à la guerre sont connues de tous. Oh, si lui avait pour moi ce que tant d'autres prétendent ressentir !» Elle n'acheva pas sa phrase, mais un profond soupir, s'échappant de son âme, vint parler pour elle. Puis sa conversation avec Syrah lui revint à l'esprit. C'était un sujet pénible qu'elle ne pouvait éviter, car elle sentait que ce jour daterait comme une crise mémorable dans sa vie. Son orgueil avait été humilié par une esclave et son caractère adouci. Comment, elle ne pouvait se l'expliquer. Si, à cette heure, ses yeux avaient été ouverts et si son regard avait pu s'élever au-dessus de ce monde, elle aurait vu un nuage, empourpré des plus riches couleurs, monter vers le ciel comme la pure chaleur de l'encens. Ce nuage venait du chevet d'une esclave agenouillée. La prière et le sacrifice volontaire sont les deux ailes sur lesquelles l'âme monte vers le Très-Haut. Le nuage continua donc son ascension, allait jusqu'au trône de Dieu, pour retomber ensuite, comme une rosée fraîche et féconde, sur le cœur aride et desséché de la jeune patricienne. Fabiola ne pouvait voir cette scène, mais fatiguée, à la fin, elle songea au repos. Elle eut un songe triste, comme ses pensées. Elle voyait un jardin délicieux, richement illuminé, d'une lumière aussi brillante, mais plus douce que celle du soleil, tandis que tout, en dehors de ce radieux jardin, restait obscur. Les pelouses étincelaient de fleurs magnifiques, les arbres se courbaient sous le poids de leurs moissons d'or. Au centre du jardin, Fabiola vit la pauvre enfant aveugle, dont la physionomie bienheureuse semblait redire des joies ineffables. À ses côtés, Agnès avec son doux regard, et Syrah souriant de son calme sourire, se penchant sur Agnès et semblant la caresser. Fabiola ressentit un désir irrésistible de les rejoindre. Elle voyait là une félicité que rien en ce monde n'avait pu lui faire pressentir et croyait même entendre un appel mystérieux venu du jardin enchanté. Elle s'élançait donc quand, ô douleur, elle vit qu'un ravin profond et sombre, au fond duquel grondait un torrent, la séparait d'elle. Le niveau des eaux s'éleva graduellement. Elles atteignirent bientôt les bords du gouffre. Ces eaux étaient profondes, mais claires, pures et pleines de fraîcheur. Que Fabiola eût le courage de se plonger dans ces eaux mystérieuses, elle franchirait l'espace inconnu et se trouverait transportée sur l'autre bord. Et ses compagnes l'invitaient du regard et du geste à tenter de les rejoindre. Pendant qu'elle était sur le bord, hésitante et que ses mains se tordaient avec désespoir, Calpurnius sembla se détacher du fond obscur, portant un voile déployé sur lequel les plus hideuses chimères étaient représentées. Le voile, se déployant de plus en plus, vint cacher à la jeune fille la vue du bienheureux jardin. Elle restait désespérée quand un brillant génie, C'est ainsi qu'elle l'appelait, dans les traits duquel elle crut reconnaître quelque chose de la physionomie de Sébastien, mais de Sébastien spiritualisé et transformé par l'idéal, après s'être tenu tristement à l'écart, s'approcha d'elle avec un doux sourire et rafraîchit la tête brûlante de la jeune patricienne en l'effleurant de ses ailes de pourpre et d'or. Puis la vision disparut et fit place à un sommeil calme et réparateur.